savoir. Alors, si c'est géré effectivement par des personnalités exceptionnelles, vous savez, le fondateur d'une entreprise, alors, Steve Jobs, ils peuvent tout faire dans cette entreprise. Tant qu'il est là, mais le jour où il disparaît.
C'est la différence entre les entreprises familiales et les entreprises qui ont des gars qui arrivent pour 3 ans et qui partent. Ils n'ont plus aucun lien.
Je trouve que je ne sais pas, parce qu'en définitive, si on avait gardé le modèle de l'entreprise personnelle et qu'on n'était pas passé massivement à cause des chemins de fer vers l'entreprise associative, par semi-anonyme, par action, si on était resté dans l'entreprise personnelle, on aurait peut-être pu voir les chefs les patrons qui avaient une figure sociale importante et qui agissaient autrement parce qu'ils se sentaient responsables. Et là, je trouve que je vous suggérerais d'envisager une toute première RSE qui est celle définie par Adam Smith. Parce qu'Adam Smith, dans son système, dit quand même que l'entreprise qui, à ce moment-là, a une responsabilité sociale qui est de ne faire du profit que dans un marché concurrentiel, parce que dans ces conditions-là, le profit est légitime, donc socialement acceptable, et si l'information est transparente. Les libéraux, aujourd'hui, se raccrochent encore à cette réforme, l'information totale comme étant le meilleur moyen de préserver le marché. Adam Smith fonctionne dans un système où les gens sont responsables personnellement parce qu'ils définissent l'année de personnel.
On est d'accord, mais ça c'est l'idée de responsabilité. Ça.
Tout à fait. Oui. Parce que quand on est entrepreneur en nom personnel, donc tout ce que lui définit comme l'intérêt personnel de l'entrepreneur inclut la sympathie, c'est le sérieux de l'homme. Donc ça inclut la sympathie, qui est à la base du matérialisme. Même quand même, c'est ce qu'on dit, on se soucie d'eux. Quand l'entreprise devient anonyme, comme son nom l'indique, ce que Marx aussi, c'est Marx qui est le premier théoricien de la gouvernance et de la. Qui est le premier à dénoncer le rôle du patron non propriétaire. Et là, il y a un phénomène, et donc on n'a pas laissé sa chance peut-être au paternalisme.
Donc oui, donc, c'est très difficile. Penser qu'on aurait pu faire autrement, parce que la société anonyme a permis de mobiliser des capitaux.
Oui, mais est-ce qu'on en avait tellement envie ? On avait bien pour les chemins de fer, et puis alors on a permis à tout. Mais avant ça, on interdisait aux gens de faire de l'entreprise à travers des sociétés anonymes, à cause de tous les excès.
Moi, je vous suggérerais une autre lignée, qui est en fait que ceux qui revendiquent leurs responsabilités sont en fait toujours très rares. Que dans l'histoire du capitalisme, vous allez avoir certains patrons qui vont au contraire être finalement des exceptions dans un univers où en réalité, ceux qui veulent profiter, ceux qui veulent pouvoir le faire sans être responsables. Et les premiers à faire, moi c'est ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on nous parle constamment on ne supporte plus les discours sur le risque, les gens qui ne veulent pas prendre de risque, etc. Mais enfin, ceux qui ne cessent de leur tenir ces discours, quel risque prennent-ils? Enfin, quand on est dans l'univers financier, on sait bien qu'aversion au risque est fondamentale, enfin. Elle ne doit pas prendre n'importe quel risque. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc je crois qu'il y a vraiment.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je dis qu'il y a une escroquerie sur ces discours sur le risque et que la plupart des agents ne veulent pas prendre de risque. En particulier lorsqu'ils sont dans les milieux économiques.
Et qu'ils abusent de leur risque.
Ceux qui sont capables et ceux qui revendiquent leurs responsabilités sont en fait extrêmement rares et restent des exceptions. Ce qui est, pour moi, assez triste en réalité, parce que ça veut dire que.
C'est le courage.
Oui, mais ça veut dire que le rêve, nous sommes marqués encore par l'utopie de la révolution. On sort d'un monde d'inégalité, d'asymétrie. Il y a les nobles, les classes, les ordres, etc. Il y en a qui sont faits pour dominer, d'autres qui sont faits pour obéir. Et la Révolution lance cette idée que qui que nous soyons, nous sommes capables d'être également responsables. Ça, c'est... Et pourquoi ? Ça se comprend très bien à cette époque-là, parce qu'on peut donc vivre non dépendant. Donc, il y a cette écotronie à utopie. Ce que je... La tristesse, c'est que en réalité, cette utopie est une utopie. Et qu'elle est constamment déçue, en réalité. Et le... Pour moi, la crise financière, c'est une nouvelle déception. C'est-à-dire que ces grands acteurs financiers qui dominent le monde, enfin, qui, dont le monde, dont le reste du monde dépend, ont témoigné qu'ils n'étaient pas plus responsables que les autres. Et
le problème n'est pas la responsabilité de la personne morale.
Oui. Ok, mais ça vous veut dire que la manière dont vous pouvez dire après ça que la gouvernance est telle qu'effectivement il ne peut pas y en avoir.
Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Oui, d'accord.
Et donc quand on parle de la responsabilité d'une entreprise, fondamentalement, l'entreprise est quelque chose d'irresponsable. Elle est conçue pour être quelque chose d'irresponsable.
Oui, d'accord, mais ça c'est un gros problème pour Laurent.
Je crois que c'est...
Là c'est un gros problème pour Laurent parce que... Mais non, mais c'est un énorme problème parce que ça veut dire, est-ce que le discours sur la responsabilité sociale, la RSE aujourd'hui, si vous avez cette analyse-là, vous pouvez dire que c'est uniquement de la com.
C'est de la com.
Ah, c'est tout. C'est tout. D'accord. Mais c'est pas. Laurent, il y a d'autres espoirs.
Non,
je pense que ça peut être autre chose que de la com.
L'espoir doit être qu'on dise si on ne sera plus de la com le jour où on met fin à cette notion aberrante de la responsabilité limitée de l'entreprise, du mandataire dans l'entreprise, et on dit aux gens vous allez être responsable personnellement. Comme si vous étiez propriétaire. On abuse des termes dans les anglo-saxons, à Dordi, les actionnaires sont propriétaires. Les actionnaires ne sont pas propriétaires, puisqu'ils ne sont pas responsables. Leur responsabilité est limitée. Le personnel d'une société anonyme, il n'est pas propriétaire, même s'il a 100% des actions. S'il agit en nom propre, là, il est responsable. Et donc, je trouve qu'il y a tout un exercice intéressant pour dire responsabilité sociale des entreprises. Ah, très bien, mais alors. Voyons qui est responsable.
Absolument.
Et sortons de cette responsabilité limitée à tous les États. Je trouve aberrant qu'on tolère que les administrateurs, je suis un administrateur de quelques sociétés, on tolère que les administrateurs soient assurés, aux frais d'ailleurs
de la société,
contre leur faute. C'est aberrant. Donc, comme vous dites, tous ces gens ne veulent pas être responsables.
Exactement.
Ils ne veulent pas.
Mais inversement, enfin,
ne veulent pas ou veulent être prévoyants. Parce que c'est peut-être une forme de prévoyance.
Ah, je ne peux pas assumer.
C'est prévoyant vis-à-vis d'eux-mêmes, mais oui, pas oui, vis-à-vis du reste, effectivement. Mais
justement, c'est parce qu'ils ne sont pas prévoyants dans leur fonction.
Dans leur fonction, dans leur protection personnelle.
Oui, ils sont prévoyants dans leur protection.
Comme ça, je reviens avec l'idée que François disait. On vous a imposé que vous allez devenir responsable, et donc vous devez être prévoyant. Vous devez être responsable de ce que vous faites et de ce qu'il faut.
Vous devez être prévoyant professionnellement.
Ah oui, aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas.
Si tu vas jusque-là, y a-t-il encore des gens qui vont oser entreprendre?
Je crois que ce serait une limite bienvenue à la taille des entreprises. Sinon, il n'y a pas de limite à la taille des entreprises. Il y a la monstruosité.
Le procès de Kievriel montre vraiment que l'entreprise n'est absolument pas responsable.
Tout à fait.
Je trouve ça aberrant, le résultat de ce procès. Aberrant.
Mais je ne trouve pas si aberrant.
Non.
Non, mais là, ça vous
a... Il est logique, dans la logique d'aujourd'hui.
Mais là, vous avez...
Il déculpabilise, mais tout le monde. C'est non, je ne suis responsable de rien.
Non, c'est un bon exemple.
L'employé fait une connerie, mais c'est pas...
Non, c'est un bon exemple du fait qu'il y a cette division, aujourd'hui, entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Quel est le jugement de la Cour de cassation ? Il consiste à dire que... du point de vue pénal, l'entreprise n'est pas responsable du salarié qui a délibérément choisi de frauder. Et on ne peut pas lui mettre comme une obligation pénale d'avoir à prévoir, en quelque sorte, ses manquements. Par contre, elle a l'obligation civile. Hein? Et si...
Ça a été jugé.
Non, ça a été jugé d'un point de vue d'infraction à la gouvernance. La Société Générale a été punie d'une amende extrêmement élevée pour manque de contrôle, etc. Donc ça, il y a une sanction administrative. Hein. La sanction de Kerviel, le tribunal a dit
C'est pas, il a délibérément choisi, etc. Et il ne peut pas prétendre s'exonérer en disant que la Société Générale aurait dû prévoir sa fraude. Et le mettre dans une situation de nuire. Et ça, on ne peut pas le considérer que c'est une faute pénale.
Mais entre la Générale et son patron, moi, je trouve ça incroyable que son patron n'ait même rien du tout.
Mais ça, il peut. Ben, si, il a eu quelque chose, il a été viré.
Le patron de qui
ils ont tous été virés. Tout le staff est parti. Si, mais ça, c'est comme une responsabilité politique. Non, ils n'ont aucun amené sa démission, mais ils ont été contraints, pour la Société Générale, à considérer, enfin les actionnaires l'ont considéré, que, enfin le conseil d'administration, qu'il fallait se débarrasser, sinon la Société Générale ne sortirait pas de ce traumatisme. Donc le salut de l'entreprise par rapport à ses clients dépendait de la reconfiguration complète de ces salles de marché, enfin de ces activités de crédit. Et ça a été fait. Donc vous avez beaucoup de... Et là, c'est le problème. Non, on peut considérer qu'il y a une erreur dans la défense de Kerbier. On peut considérer qu'il n'avait pas d'autre choix pour se défendre. Il a joué ça pour essayer de s'en sortir. Peut-être qu'il l'a joué de telle manière qu'il y a cru lui-même. Mais alors, là où on peut considérer que c'est dégueulasse, c'est que, effectivement, on ne prend pas en compte toutes les incitations qu'il a pu avoir pour le faire.
Voilà, exactement.
Oui, mais là, c'est un problème. Ça, c'est du point de vue pénal, moi, je trouve que c'est quand même compréhensible. Est-ce qu'on peut pénalement sanctionner quelqu'un pour ne pas avoir... pour ne pas avoir mis en garde quelqu'un qui avait décidé de frauder. Est-ce que la faute pénale peut aller jusque-là?
Est-ce que ça n'introduit pas aussi
je termine, parce que ça voudrait dire, à la limite, que vous allez mettre en prison le supérieur le supérieur de Kerbier. Ouais. Parce qu'il aurait commis une faute pénale. D'accord?
Non, c'est votre notion pénale. Voilà, c'est la notion pénale. C'est l'idée que le patron n'a pas été en pénal.
Il a une faute de responsabilité de son équipe.
Oui, mais ça, elle a été sanctionnée.
Sanctionnée par environ.
Mais pénal, c'est quand même important. Oui, ça, c'est la question de la morale.
Pénale,